Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour et bienvenue dans Accent d'Europe. Le sommet des BRICS s'ouvre demain en Russie, dans la ville de Kazan, c'est à 900 km à l'est de Moscou. BRICS, c'est l'acronyme des pays qui composaient le groupe des émergents il y a 15 ans, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ils sont 9 États au total aujourd'hui. Et ce sommet de Kazan, même si l'absence du président brésilien Lula ne passera pas inaperçue, ce sera nul doute pour Vladimir Poutine l'occasion de montrer qu'il n'est pas isolé sur la scène internationale. L'occasion aussi de faire avancer son agenda anti-occidental avec la Chine, un poids lourd dont Moscou a dû se rapprocher à grande vitesse sur le plan économique pour faire face aux sanctions occidentales à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Mais cette relation commerciale entre les deux puissances est de plus en plus asymétrique. Reportage dans la ville de Blagovetchensk à la frontière chinoise, Anissa El-Jabri.
Entre Blagovetchensk en Russie et Aïe en Chine, le fleuve Amour, 750 mètres de large, qu'on traverse en 15 minutes en ferry ou en bateau pour les passagers individuels. Avec le pont, c'est encore plus rapide. Quelques minutes de trajet en plus des douanes, l'ouvrage et ses abords ne sont pas autorisés à la presse internationale, mais toutes les sociétés de la rive russe le disent. Son ouverture en juin 2022 a été une aubaine permettant d'absorber l'explosion du commerce entre les deux pays depuis 2 ans. La plupart des chefs d'entreprise locaux voient leur chiffre d'affaires s'envoler, leurs besoins, y compris en espace, s'étendre. Ruslan Ershov fait ainsi visiter ses nouveaux locaux.
Avant, nous avions une superficie totale d'environ 150 mètres carrés. Ici, nous avons acheté un immeuble entier de bureaux avec une surface totale de 360 mètres carrés, plus notre propre zone de stationnement. Donc, en fait, je dirais que l'espace total dédié à notre activité a triplé.
Ruslan Ershov dirige depuis 15 ans un conglomérat d'entreprises. Son activité principale reste le commerce entre les deux pays, notamment en matière de véhicules.
Nous ne développons pas uniquement ça pour les clients à Blagovetchensk. Notre public est l'ensemble de la Russie. C'est pourquoi nous recrutons des personnes non seulement à Blagovetchensk, mais aussi dans absolument toutes les régions. Actuellement, nous recherchons des représentants commerciaux, des agents, des revendeurs. Nous travaillons aussi avec des entreprises partout en Russie et concluons des accords de partenariat avec elles pour pouvoir aller encore plus vite et suivre la demande. Aujourd'hui, nous en sommes à environ 15 concessionnaires dans toute la Russie.
Positionnement géographique, habitude de commercer avec le pays d'en face, Blagovetchensk est évidemment une des mieux placées pour profiter de la nouvelle donne économique. Mais ici, derrière les sourires réjouis, on se met parfois de longue date aussi du grand voisin. Et surtout désormais, on connaît ce rapport de force. La Chine est bien devenue le premier partenaire commercial de la Russie, mais la Russie n'est-elle que son 6e. Le PIB chinois est aussi 10 fois plus élevé que le russe. Écoutez cette observatrice de la vie locale en Extrême-Orient, elle a demandé à ne pas être identifiable.
Dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la Chine est désormais en mesure de nous dicter ses conditions. Mais la propagande prend le pas sur cette réalité et la majorité des gens croient donc toujours que notre pays est grand et que c'est nous le grand frère. Alors que tous les entrepreneurs, et moi aussi, se rendent bien compte que nous ne sommes plus le grand frère de la Chine depuis longtemps, c'est devenu l'inverse. Il est même clair que nous commençons à devenir dépendants de la Chine d'un point de vue économique. Pour la plupart des gens, ce n'est pas gênant, car l'Extrême-Orient a toujours été une plateforme commerciale avec la Chine. Et puis, il faut rendre cet hommage à la Chine. La qualité de ses marchandises a beaucoup augmenté. Alors quand les gens remplacent leurs voitures japonaises par des voitures chinoises, cela ne provoque pas de choc énorme. L'industrie automobile chinoise est tout simplement devenue d'une très grande qualité. Et puis, si aucune irritation ne se manifeste, c'est aussi que nous avons eu beaucoup à gérer après la mise en place des sanctions. Tout ça, c'est avant tout pour nous tout simplement un moyen de survivre.
À Moscou, les élites, elles, parlent ouvertement de ce déséquilibre, mais elles le savent. Pour le pouvoir, la mère de toutes les batailles reste la guerre en Ukraine. Les rivalités de puissance, c'est pour plus tard.
Ne manquez pas demain le grand reportage d'Anissa El-Jabri, Russie-Chine, l'attelage anti-occidental à l'épreuve des sanctions. C'est sur nos antennes et en podcast, bien sûr. Alors, entre la Chine et l'Inde, l'Iran et le Brésil, les BRICS sont une entité disparate, mais ses membres ont une volonté en commun, celle de faire entendre une autre voix dans les affaires internationales, une autre voix que celle définie par les États-Unis et leurs alliés. Même la Turquie, pourtant membre de l'OTAN, souhaite rejoindre les BRICS. Comment faut-il comprendre cette candidature ? Frédéric Lebel a posé la question à Soli Özel. Il est professeur de relations internationales, associé à l'Institut pour les sciences humaines à Vienne et à l'Institut Montaigne à Paris.
L'autorité des pays occidentaux est beaucoup plus diminuée maintenant que ce c'était le cas il y a 10 ans. Et tous les pays du monde, surtout ce qu'on appelle les puissances moyennes, sont à la recherche d'une position pour qu'elles puissent prendre avantage de l'ordre qui viendra. Et la Chine qui s'associe avec la Russie, Corée du Nord, peut-être Iran, ce qu'on appelle le nouvel axe anti-occidental. Et dans ce cas-là, ces moyens puissances essayent de trouver une plateforme où ils peuvent s'exprimer et demander aux pays occidentaux qui contrôlent les institutions et les règles de l'ordre mondial aujourd'hui de changer un tout petit peu pour faire une accommodation pour qu'eux aussi, ils puissent avoir une voix dans la gérance du monde.
On le sait, la Turquie est souvent soupçonnée par l'OTAN de ne pas être un membre assez fiable. Est-ce que cette candidature aux BRICS pourrait peser justement sur cette relation compliquée ?
Après l'annexation de la Crimée par la Russie, les Allemands ont construit la seconde pipeline. Est-ce qu'on avait des soucis sur les intentions ou bien
la fiabilité
de l'Allemagne dans l'OTAN ? Moi, je trouve ces questions absolument biaisées. Et oui, la Turquie peut être un problème politiquement, comme elle l'a montré, quand elle a décidé de ne pas approuver la candidature de la Suède tout de suite. Mais regardez ce qu'elle fait militairement, soit à la mer Noire, soit dans des autres exercices de l'OTAN et tout ça. Oui, c'est un membre assez fiable. La seule chose qui intéresse les Occidentaux, c'est est-ce que la Turquie va changer de camp, qui n'est pas la question, à mon avis. Et il ne faut pas s'inquiéter parce que l'économie de la Turquie fonctionne avec celle de l'Europe.
Les BRICS ne parlent pas d'une seule voix, mais ils ont quand même un mantra commun qui est celui d'être anti-occidental.
C'est pas être anti-occidental. La Chine et la Russie peuvent être anti-occidentales, l'Inde et le Brésil ne le sont pas, et à mon avis, l'Afrique du Sud non plus. Il y a les deux grands qui sont contre l'Occident, et les deux autres grands, disons Brésil et l'Inde, qui veulent que l'Occident change les règles du jeu pour qu'ils puissent eux-mêmes se présenter et que leur voix soit entendue.
Adhérer aux BRICS, est-ce que ça va permettre un plus fort rapprochement entre la Turquie et Moscou ? Monsieur Poutine a dit que c'était les meilleurs voisins, les meilleurs amis.
Oui, les meilleurs voisins, les meilleurs amis. L'histoire n'est pas exactement la même chose. Mais écoutez, je crois qu'on connaît très bien en Turquie les limites de rapprochement avec la Russie. On l'a vu que pendant la guerre de l'Ukraine, le fait que la Turquie a vraiment fermé
l'entrée du détroit du Bosphore
exactement,
à la mer Noire,
et qui a beaucoup frappé les Russes, ça vous dit déjà quelque chose. C'est vraiment une relation d'équilibre, n'est-ce pas? La Turquie a besoin de la Russie comme source d'énergie, de tourisme et commerce, et la Russie a besoin d'une Turquie qui n'est pas son ennemi.
Est-ce qu'il y a une part de revanche de la part du président Erdogan à demander à intégrer les BRICS face à la manière dont il est traité par l'Union européenne ?
C'est ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères, M. Fidan, très récemment. Si on était membre de l'Union européenne déjà, on ne penserait pas à joindre les BRICS. C'est ce qu'il a dit.
C'est-à-dire qu'il y a une immense lassitude
en
Turquie.
Le désir de donner un message que nous ne sommes pas tout à fait dépendants de votre volonté ou bien de votre désir ou l'absence de votre désir pour intégrer la Turquie comme membre de l'Union européenne.
Le professeur Soli Özel avec Frédéric Lebel, un entretien réalisé à Istanbul à l'occasion du séminaire de l'Institut du Bosphore. infibulation, excision, la pratique des mutilations génitales féminines est illégale dans l'Union européenne depuis le mois de mai dernier. Mais elle concerne environ 600 000 femmes et 180 000 fillettes sont à haut risque dans seulement 13 pays européens. Pour ces femmes, la confrontation au système de santé est un choc, parfois brutal. C'est le cas en Autriche où le travail des associations est essentiel tant pour la prévention des mutilations que pour la prise en charge des patientes. À Vienne, le reportage de Céline Béal.
Penina Lessorogol est créatrice de bijoux à Graz, au sud de l'Autriche, et l'une des rares femmes dans le pays qui accepte d'aborder le sujet des mutilations génitales féminines.
C'est complètement tabou. Je n'ai jamais eu la moindre conversation avec une femme à ce sujet en Autriche.
À 40 ans, Penina Lessorogol est installée ici depuis 8 ans. Elle a grandi dans un village au nord du Kenya où l'on pratique une forme de mutilation appelée clitoridectomie ou ablation du clitoris. Clitoridectomie, excision ou autre. 200 à 230 millions de femmes dans le monde sont concernées par ces mutilations. Mais ici, en Autriche, le problème reste généralement méconnu.
Lors de l'accouchement de mon deuxième garçon, le médecin s'est complètement figé pendant une bonne minute quand il m'a vu. Si ma vie ou celle de mon enfant avait été en danger, ça aurait été compliqué.
Un rapport publié en septembre par la faculté de médecine de Vienne alerte sur les discriminations que subissent souvent les femmes victimes de mutilations génitales dans les hôpitaux et les cabinets médicaux. À Vienne, Omime El-Djilidi en a été témoin.
J'accompagnais une femme qui avait été mutilée. C'était pour une urgence. Lors de l'examen, le médecin s'est exclamé « Mon Dieu, mais comment est-ce que tu fais pour coucher avec ton mari ?» Ça a été un choc pour elle et elle a quitté l'hôpital.
Cette chirurgienne de formation vient du Soudan et travaille comme chef de projet à FemSud, un centre viennois spécialisé dans l'accompagnement médico-social des migrants.
C'est pour cela que lorsque j'ai commencé à travailler ici, nous avons décidé de proposer des formations aux médecins pour qu'ils sachent comment s'adresser aux femmes concernées, comment réagir, à quoi ressemblent ces mutilations et quelle signification ça revêt à leurs yeux à elles, pour qu'ils puissent échanger avec elles dans le respect.
D'un côté, le choc des médecins. De l'autre côté, celui des patientes. Omime El-Djilidi est également responsable d'une instance de coordination créée en 2021 pour toutes les organisations autrichiennes qui agissent dans le domaine des mutilations génitales féminines.
Les femmes ont un profond sentiment de honte parce qu'elles ne savent pas ce qui leur est arrivé. Elles pensent être tout à fait normales, elles sont même fières. Mais elles arrivent dans un pays étranger qui ignore tout de cette pratique. Et là, il y a cette confrontation avec les médecins.
Le centre FemSud mise beaucoup sur l'information des femmes.
On leur donne des explications sur leur santé et les conséquences des mutilations.
Parmi les conséquences possibles des mutilations, de fortes douleurs pendant les règles et les rapports sexuels, l'incontinence et puis des accouchements plus difficiles, sans compter les dépressions nerveuses.
On parle aussi des conséquences sur la vie sociale et sur l'éducation des jeunes femmes, si elles ratent l'école pendant un ou deux jours tous les mois pendant leurs règles.
À celles qui sont infibulées, c'est-à-dire à qui on a rétréci l'ouverture vaginale, les conseillères recommandent systématiquement une défibulation. Mais les premières concernées sont parfois incrédules et rétives, rapporte Omime El-Djilidi. Car dans leur culture, cette tradition est connotée positivement, symbole de pureté et idéal de beauté. Pour les convaincre, il faut parler beaucoup.
Si une femme vient ici parce qu'elle veut une défibulation pour pouvoir accoucher par voie basse, mais qu'elle ne comprend pas vraiment ce que signifient les mutilations génitales, alors elle retournera dans son pays ou ailleurs après l'accouchement pour se faire réinfibuler. Parce que le concept, les valeurs qui se cachent derrière les mutilations sont encore ancrées dans sa tête.
Les mutilations génitales dans les têtes, c'est à ce niveau qu'il faut combattre pour faire œuvre de prévention. En effet, la pratique des mutilations est certes passible de 10 ans de prison en Autriche depuis 2019, mais le rapport de septembre relève un chiffre inquiétant. 1 700 à 3 000 petites filles seraient tout de même à risque dans le pays. Les parents profitent d'un séjour à l'étranger pour les faire mutiler, chez l'exciseuse ou dans un cadre médical, ce qui est tout aussi illégal, mais quasiment impossible à contrôler.
Et c'est en Grèce, vous l'entendez, que nous emmène notre chronique en un mot cette semaine, à la rencontre d'un de ces termes intraduisibles qui en disent toujours beaucoup sur un pays ou une société, le mot « philotimo ». Doté d'une part d'ombre dans l'Antiquité, il est aujourd'hui associé à des valeurs positives, l'honneur, le dévouement, l'honnêteté, la bienveillance. On le retrouve dans la sphère privée comme dans les affaires publiques. Il a été question de philotimo à l'occasion des JO de Paris, par exemple, ou à propos des difficultés du système de santé grec. À Athènes, les explications de Joël Bronner.
Nous sommes en 2019, dans la banlieue d'Athènes. L'ambiance est aux fêtes de fin d'année. Arrivé en Grèce depuis peu, je profite d'un rassemblement convivial pour interroger certains participants dans le cadre déjà d'une prochaine chronique en un mot. Après avoir répondu au micro, Dimitris, notre hôte, suggère ce jour-là une autre piste.
Beaucoup s'y sont essayés, mais il n'y a pas réellement de traduction précise pour le terme philotimo. Philo, ça veut dire ami, et timo signifie honneur. Mais même pour moi, là, c'est difficile. Donc ça serait sûrement intéressant pour toi d'en faire une prochaine chronique.
Presque 5 ans plus tard, le conseil a donc finalement été écouté. Pour mieux comprendre le sens de ce terme « philotimo », commençons par voir dans quel contexte il est employé. Prenons l'exemple des récents Jeux Olympiques de Paris. Todoris Vlachos est l'entraîneur de l'équipe nationale masculine de waterpolo. Lorsqu'il s'exprime au micro de la télévision publique grecque, ses joueurs viennent tout juste de remporter une victoire sur l'équipe australienne.
Après des résultats décevants, les joueurs ont cette fois fait preuve de dynamisme et de concentration. Ils voulaient vraiment faire un bon match. Ils ont montré de grandes qualités, de la dignité et du philotimo. Nous sommes venus ici pour obtenir la meilleure place possible et pour les prochains matchs, nous allons jouer en guerrier.
L'entraîneur utilise ici ce terme dans le sens d'abnégation, de dévouement, de sens du collectif. Pour souligner son importance culturelle, les Grecs aiment citer ces mots attribués au philosophe et mathématicien Thalès. Le philotimo, pour le grec, c'est comme la respiration. Sans lui, un grec n'est pas un grec. Il pourrait aussi bien ne pas être vivant. Un principe qui semble se vérifier dans le secteur de la santé à la peine en Grèce. Lors d'une visite dans un hôpital, le chef de l'opposition évoque les efforts fournis, notamment en termes d'heures supplémentaires.
Le système de santé survit grâce à l'immense honneur des médecins, des infirmières et de tout le personnel. Ce n'est pas possible de compter uniquement sur le philotimo pour gérer l'État.
Certains linguistes soulignent l'aspect plus intérieur, plus émotionnel du sens du devoir inclus dans la notion de philotimo. Et ce, par comparaison au monde occidental, où ce même sens du devoir, depuis l'époque des Lumières, serait plutôt véhiculé par une force extérieure, à savoir l'autorité de la loi au sein de l'état de droit. Olga Tsatsouli enseigne le grec à Athènes.
De nos jours, dans la culture grecque, le philotimo représente une qualité humaine qui est liée à la conscience individuelle, à un comportement de travail éthique et honnête. Quand nous disons d'une personne qu'elle a du philotimo, cela peut signifier qu'elle est consciencieuse, qu'elle agit moralement, qu'elle se montre attentionnée ou bien encore qu'elle fait preuve de générosité. Ça dépend du contexte.
Dans son dictionnaire insolite de la Grèce, Paraskevi Natsou affirme qu'il est impossible de traduire philotimo par un seul mot, tant est complexe l'éventail des vertus évoquées par cette notion spécifiquement grecque. De nos jours, dire d'un grec qu'il n'a pas de philotimo s'apparente en effet à un sévère reproche. L'auteur rappelle toutefois qu'en grec ancien, le mot philotimo pouvait aussi se traduire par son reflet inversé, l'ambition démesurée ou bien la recherche des honneurs.
À la réalisation, Stéphane Desfossés. À demain pour une nouvelle édition d'Accent d'Europe. Et d'ici là, vous êtes bien sur RFI. Restez avec nous. Dans un instant, l'info continue.